France Info.
France Info. France Info. Et c'est l'heure de lire les journaux avec vous, Simon Le Baron. Bonjour.
Bonjour.
Et la presse qui fait évidemment ses grands titres ce matin sur ce changement de gouvernement.
Et le rassemblement cher à François Hollande, il est au moins à la une de la presse. Le président de la République a réussi à mettre d'accord Libération et Le Figaro. L'un est classé à gauche, on le sait, l'autre à droite. Eh bien, les deux journaux affichent le même titre en une ce matin. Crise de régime. La photo, quand même, est différente. Elle montre un chef de l'État sous la pluie battante de l'île de Sein, au large du Finistère, où il a rendu hommage hier aux résistants de ce petit bout de terre bretonne. Libé a choisi une photo du président debout, face à la mer, quasiment de dos. Le Figaro montre son visage, en gros plan, les lunettes détrempées. Dans les deux cas, il est seul. François Hollande, en une de Libération et du Figaro. Les Échos et La Croix ont choisi de leur côté de montrer Manuel Valls et Arnaud Montebourg. C'est quasiment la même image pour les deux quotidiens. Le Premier ministre au premier plan, regard déterminé, sont désormais ex-ministre de l'économie derrière. Sur la photo, son visage est flou, comme s'il n'était déjà plus là. Valls impose sa ligne, titre Les Échos. Hollande et Valls défient le PS, analyse La Croix. Après la crise déclenchée par les propos d'Arnaud Montebourg, le chef de l'État et le Premier ministre veulent obliger leur parti à se ranger derrière une politique orientée vers les entreprises et l'Europe. Cette crise politique occupe en tout cas une grande partie des quotidiens ce matin, vous le disiez Mathilde, une crise aussi grave qu'inattendue, ce sont les mots du Parisien qui résume la situation en deux mots et un point d'exclamation. Quel spectacle!
Et cette crise, elle est aussi largement commentée sur les réseaux sociaux par les citoyens, les journalistes et bien sûr les politiques.
Plusieurs d'entre eux ont même filé la métaphore marine pendant que François Hollande affrontait les éléments déchaînés sur l'île de Sein. Voici par exemple un tweet de la députée UMP Valérie Pécresse. La galère gouvernementale prend l'eau, sans direction, avec capitaine et second affaiblis et un équipage en pleine mutinerie. Et elle s'interroge. Et la France. Le centriste Hervé Morin, lui aussi, s'est essayé à la métaphore navale, sauf que ça lui a moins bien réussi. De nombreux internautes se moquent gentiment du candidat à la présidence de l'UDI en relayant ce tweet, rapidement supprimé hier soir. Mais malheureusement pour l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rien n'échappe aux tweetos. Je le cite, « Le centre ne doit pas être la roue de secours du Titanic ».
Dans le reste de la presse, l'épidémie d'Ebola qui continue de faire des ravages en Afrique.
La fièvre hémorragique a fait plus de 1400 morts, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Et le Parisien a rencontré deux survivants, deux malades qui ont pu être soignés dans un centre de Médecins sans frontières en Guinée, où le virus a fait plus de 400 victimes. Awa, l'une de ces rescapées, raconte l'isolement comme une petite prison dans laquelle on perd la notion du temps, où 24 heures semblent être une éternité. L'autre témoin, rencontré par le Parisien, a lui choisi de parler sous pseudonyme. Le journal l'appelle Mohamed. Il est aujourd'hui traité comme un pestiféré par ses proches. Voilà ce qu'on peut lire. Les voisins ferment leurs fenêtres, perturbés par ce revenant. Les deux anciens malades tentent désormais de lutter contre les rumeurs qui contribuent à la propagation du virus. Certains pensent qu'on coupe les membres des patients, disent-ils, d'autres qu'ils sont habités par le diable. D'après l'OMS, il faudra au moins 6 à 9 mois encore pour maîtriser l'épidémie. Et dans Libération, le co-découvreur du virus, le Belge Peter Pio, est pessimiste. Toutes les conditions sont réunies pour que l'épidémie d'Ebola s'emballe.
Dans Libé toujours, mais beaucoup plus léger, des vignes mélomanes.
Oui, on sait que la musique adoucit les mœurs. Elle pourrait bien aussi adoucir le vin. C'est ce que pense en tout cas un vigneron installé près du Cap en Afrique du Sud. Il a installé 18 haut-parleurs dans ses vignes qui diffusent jour et nuit de la musique baroque. Et classique, voilà, on ne savait pas que les vignes avaient des oreilles, les murs, oui, mais pas les vignes. Hein. Alors, sont-elles sensibles à Bach et Mozart? Eh bien oui, d'après le viticulteur, il explique que le baroque et le classique ont des rythmes mathématiques. Il a été prouvé, dit-il, que les ondes sonores ont un effet positif sur la vie naturelle. Selon lui, le vin musical a en tout cas une saveur bien plus prononcée, des tanins plus doux et il tente à avoir un degré d'alcool légèrement plus faible.